RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission via le hashtag MardiPol.
Oui, nous recevons ce soir Sonia Crimi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée de La République En Marche de la Manche et vous êtes aussi membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et vous êtes aussi connue pour votre franc-parler. On se souvient des larmes de Gérard Collomb lors de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les relations entre les deux hommes se sont dégradées au point que le ministre de l'Intérieur a remis sa démission au président qui l'a refusé. Mais Gérard Collomb veut toujours démissionner. Il l'a dit au Figaro. Alors pour eux, Charles Aznavour aurait pu leur dédicacer cette chanson.
Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté.
Oui, Antoine Sfert.
Voilà, des relations dévastées entre les deux hommes. Édouard Philippe va devoir trouver une solution pour retrouver un remplaçant. Donc c'est acté, c'est le divorce politique entre les deux hommes.
Alors, je ne vais pas commenter
que vous
quelque
ne savez
chose
pas,
que je ne sais pas. Effectivement, je ne sais pas ce qui a poussé Gérard Collomb à prendre cette décision aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé en l'assu pour Nicolas Hulot. On a su, il a détaillé chez votre collègue, mais je ne sais pas aujourd'hui pourquoi Gérard Collomb y part, surtout qu'il y a quelques jours.
Vous avez une petite idée quand même des relations entre ces deux hommes?
Non. Je ne vais pas commenter. Comme je suis une femme qui dit ce qu'elle pense, je vous assure, si je savais quelque chose,
non, mais
je vous
en dirais.
Je pense d'abord que le mandat de maire est un mandat super. Et quand on s'intéresse aux gens et quand on aime les gens, s'intéresser à l'école, s'intéresser aux routes, s'intéresser à la vie locale est très très important. Je pense qu'aujourd'hui, après son annonce, une des pistes, c'est que les critiques, elles étaient tellement fortes, réelles sur le terrain. Moi, j'ai vu sur les réseaux, sur le terrain, des élus locaux, même lyonnais, que peut-être Gérard Collomb ne souhaite pas non plus affaiblir son poste de ministre, parce qu'un ministre qui est sur le départ n'exerce pas de la même manière comme un ministre bien installé chez lui. Et je pense que il prend la bonne décision peut-être de partir.
On se souvient qu'il y a quelques jours, Gérard Collomb avait déploré le manque d'humilité d'Emmanuel Macron.
Ah oui.
Est-ce qu'au fond, ce qui est en train d'apparaître là, ça n'est pas le décalage entre un élu de terrain, un homme qui a fait de nombreuses campagnes, et un président de la République qui s'isole à l'Élysée, d'ailleurs Gérard Collomb l'avait dit aussi, l'Élysée isole,
oui.
Ça fait une belle allitération. Mais est-ce que ça n'est pas ça qui est en jeu au fond? Un président hors sol face à un élu de terrain et qui dit c'est plus possible, ça peut plus marcher comme ça.
Alors, je pense que alors président hors sol, je ne sais pas, mais en tout cas un président effectivement qui n'a jamais été élu avant. Ça fait 15 mois que je suis élue. Et je vous assure, quand vous êtes un élu et quand vous rentrez chez vous, je ne suis pas une élue locale, je suis une élue nationale. Mais en allant sur le terrain, en regardant de près les mécanismes, la construction de la vie locale et comment tout ce que nous votons depuis Paris peut améliorer ou non la vie des gens sur le terrain. Je pense, effectivement, on ne peut pas réellement le toucher si on n'a pas été élu avant. Alors après...
Même si on n'a pas eu, au fond, une vie normale, en quelque sorte.
Ça veut dire quoi, une vie normale?
Oui, bien ce que je veux
ça
dire.
Ça veut dire
travailler,
quoi? Écoutez,
chercher un logement.
Oui, alors, écoutez, vous parlez à une femme qui vient d'une extrême pauvreté.
Oui.
Qui a un parcours, effectivement, il y en a énormément de personnes qui me disent, mais parle-nous de ton parcours, parce qu'il nous intéresse. D'une femme qui vient en France, à l'âge de 21 ans, qui avait 2 000 euros avec elle, qui était obligée de construire une vie, et effectivement, effectivement, quand vous passez vos examens, quand vous connaissez la pauvreté quand vous étiez jeune, effectivement, ça vous construit. Et ça vous construit autrement. Et plusieurs échanges avec mon ami, parce qu'il m'appelle un petit peu comme ça parfois, monsieur Gérard Collomb, il m'a dit, on vient de la, du, on est pareil. On a démarré pareil. Il me l'a dit plusieurs fois. Moi aussi, j'ai un papa qui était ouvrier. J'ai une maman qui était femme de ménage. J'ai eu une enfance difficile. Moi aussi, comme toi, j'étais élue contre l'appareil. Moi aussi, j'étais pas investie. Et j'ai gagné contre mon propre parti avant de rejoindre mon parti.
Vous dites,
je pense que c'est
moi,
un homme.
Pardon, de vous couper, mais vous êtes un peu la rebelle à la République en marche. C'est vrai, vous dites les choses.
Je dis ce que je pense.
Donc quand on a comme ça eu un moment dans une vie où c'est difficile, où on s'est fait à la force du poignet, etc., comme vous le décrivez pour Gérard Collomb, est-ce que dans le fond ça donne une liberté et de faire ce qu'il fait là? Parce que franchement, des hommes politiques qui démissionnent d'un poste comme important, ministre d'État, ça ne court pas les rues. D'habitude, ils se battent pour avoir le poste, pas pour le quitter.
Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Et moi, je vais vous raconter une petite épisode que vous avez suivi. C'est l'épisode de Mayotte. Mayotte, sur le fameux amendement de Mayotte, au Sénat, à la première lecture à l'Assemblée.
Je vois que vous ne répondez pas trop à mes questions.
Ça veut dire que Gérard Collomb, peut-être, il en a marre un peu quand on lui dise ce qu'il doit penser, c'est tout. Moment, quand il vient nous voir à la première lecture pour le projet Asile-Immigration et quand il nous dit j'intègre pas plutôt le amendement Mayotte parce qu'il ne s'agit pas de toucher aux conditions d'accès à la nationalité française. Je ne le fais pas parce que ça n'a pas une place là. Et quand le président de la République a fait son fameux discours, il a dit qu'il était pour. Et après, Gérard Collomb, il est revenu plusieurs jours après devant l'Assemblée pour nous dire qu'il était contre. Qu'il était pour, plutôt. Vous voyez, il était contre. Quelques jours après, qu'il était pour, moi, personnellement.
Vous exprimez de la sympathie, manifestement, pour Gérard Collomb. Vous lui tenez par rigueur de la loi asile-immigration que vous avez combattue.
Ce n'est pas une histoire de sympathie. Après, c'est un discours entre femmes et politique. Moi, je respecte la position du chef de l'État. Je respecte la position d'un ministre. Après, je n'ai pas réussi à convaincre dans mon propre camp aujourd'hui. J'en prends acte. Ça veut dire que je n'étais pas assez bonne pour les convaincre.
Si tous les députés de la République en marche étaient comme vous, qui disaient tous ce qu'ils pensent, ça marcherait mieux ou ça serait le grand bazar?
Oui, ça ne marcherait plus. Non, ça marcherait mieux si on respecte la vie de tout le monde et si on laisse tout le monde dire ce qu'il pense.
Il peut y avoir tellement d'avis différents à un moment donné.
Il n'y a qu'un seul volant, mais il y a une liberté d'échange, il y a une liberté de parole, et c'est ce qu'on vous a promis. On ne peut pas faire une campagne horizontale et vous dire aujourd'hui, arriver au pouvoir,
donc c'est une première,
on va se la jouer
qui n'est pas
verticale.
Est-ce qu'on peut s'exprimer autour d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut dire les choses? Est-ce qu'on peut lui dire les choses?
Je ne sais pas. Je ne suis pas proche d'Emmanuel Macron. C'est notre président. Je respecte énormément la séparation des pouvoirs. Je ne fais pas partie de ces gens qui envoient des SMS du matin au soir, qui demandent des rendez-vous avec Emmanuel Macron. Il est président. Il a énormément de choses à faire. Vraiment, des affaires nationales et internationales. Moi, j'ai pas besoin de
Dans ce qui se passe, c'est quand même un petit peu surréaliste qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est vrai, un ministre qui dit je veux partir, le président qui lui dit non, tu restes, il retord le bras derrière du président en disant mais non, je veux m'en aller. C'est quand même inédit. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que le ministre de l'Intérieur, en faisant ça, n'affaiblit pas Emmanuel Macron?
Alors, quand vous avez une personne dans votre équipe qui ne veut plus rester et qui souhaite partir, un peu ce qui s'est passé sur Paris avec Anne Hidalgo, bien évidemment, ça affaiblit la personne. Alors après, personne n'est irremplaçable, ni vous et moi.
Oui,
ni vous
voilà, c'est le deuxième ministre d'État qui
part en quelques semaines, je vous le concède. Oui, je finis avec un grand, grand sourire. Vous voyez, ça m'évite de dire autre chose. En tout cas, je vous le concède, oui.
Mais ça fait quand même un peu désordre.
Alors, non, non, et vous disiez... personne n'est irremplaçable, ouais. Vraiment, ouais. Vraiment.
C'est pas
je
la question.
Pense qu'on a assez de compétences en marche ou en dehors d'en marche, on l'a démontré en allant
trouver des
ministres de
droite. Est-ce que dans le momentum, c'était le bon moment, ce que veut dire peut-être Frédéric,
ouais.
Ça,
ouais.
C'est ça.
Oui, bien sûr. D'un mot, vous disiez, vous n'êtes pas du genre à envoyer des SMS au président de la République, parce que, bon, voilà, c'est le président de la République, chacun a sa place, et vous êtes... Bon, mais est-ce que lui ne vous en a jamais envoyé pour vous dire mollo les basses?
Non.
Ni lui, ni Castaner, ni Ferrand, on vous demande pas de la mettre un peu, excusez-moi la familiarité, mais bien ce que je veux dire, un peu en veilleuse.
Alors, pour le président de la République, non.
Ouais. Pour les autres, oui.
Non, je n'ai pas envie de vous répondre parce que la réponse ça va être oui, mais bon. Mais je vous ai répondu en vous disant je vais pas vous répondre.
Oui, écoutez, oui, mais vous avez dit
écoutez,
oui.
Écoutez, ils ont dit, c'est leur rôle, c'est surtout le rôle de, c'était le rôle de Richard Ferrand. Moi, je ne souhaite pas qu'il puisse avoir 300 députés comme moi, vraiment.
Bah pourtant, non, mais je vous vraiment, ai demandé tout à l'heure, vous avez vraiment. Dit, ça serait bien si
mais
tout le monde faisait comme moi.
Ça serait bien si tout le monde puisse avoir un peu plus de liberté de parole. Et c'est ce que Gilles Legendre a acté ce matin et depuis la semaine dernière en réunion de groupe. Il a dit, on souhaite réintroduire une dose de discussion, plus de liberté de parole au sein de notre groupe. Donc, avec la venue de Gilles Legendre, j'espère qu'on aura plus cette parole. Et en fait, en fin de compte, qu'on aura plus d'En Marche. Oui. On aura plus de ce qu'on vous a vendu il y a 2 ans et demi.
Alors Emmanuel Macron, là vous allez le concéder sans doute aussi, à une rentrée difficile pour ne pas dire ratée depuis l'affaire Benalla. On a le sentiment eh bien, que le président n'a plus la maîtrise de l'agenda médiatique. Hein. Vous vous souvenez, souvent c'était les journalistes qui couraient après l'info. Et là, c'est le contraire. Beaucoup de choses lui échappent. Notamment, c'est déjà alors en dernier lieu le selfie avec deux Antillais dont l'un fait un doigt d'honneur. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est raté dans la com d'Emmanuel Macron ou vous avez le sentiment que tout lui échappe quoi qu'il fasse?
Je ne dirais pas tout lui échappe. Mais je dirais que il a pris une photo avec des sur le terrain. Alors après,
il y a les petites phrases, les
alors,
photos. Enfin, ça s'accumule.
Après, est-ce que ça résume tout ce qui s'est passé à Mayotte? La réponse est non. Est-ce que ça rappelle
en l'occurrence c'est Saint-Martin.
Mayotte,
hein.
Pardon, à Saint-Martin.
Oui.
Je suis toujours
en
Guadeloupe. Je suis toujours sur Mayotte. Pardon. Non, mais on va parler de Guadeloupe. Est-ce que ça résume un peu le taux de chômage qui se passe là-bas? Est-ce que ça résume un peu le nombre de jours sans accès à l'eau? Est-ce que ça résume? Non, ça résume pas cela. Non. Mais effectivement, je prendrai pas une photo comme ça. Point, c'est tout. Je prendrai pas une photo comme ça. Je ferai plus attention.
Vous vous souvenez du jeune homme qui appelle le président Manu? Et c'est tout juste, il se prend une... Enfin, il est vertement...
Moi, j'étais pas d'accord sur cela.
Chapitré par le président. Et là, type fait un doigt d'honneur et il dit, je parle à tous les enfants de la République. Bon, on peut...
Quelle que soit leur bêtise.
Alors, j'étais pas d'accord sur ce qui s'est passé avec le gamin de 17 ans. Pour la simple raison que il a eu la honte de sa vie devant toute la France. Et moi, je dis, à un certain moment, je dis à Emmanuel Macron, comme je dis à beaucoup d'entre nous, on est jeune, on réincarne autre chose. Vous êtes un président jeune, vous avez 40 ans, vous n'êtes pas de Gaulle, en fait. Donc, un enfant, on le prend pas comme ça, on lui parle pas comme ça. Voilà. Donc... J'étais sur cet épisode-bas, j'étais pas d'accord. J'ai rien dit à l'époque, mais je vous le dis aujourd'hui, je n'étais pas d'accord dans la façon où on donne des leçons comme ça à un gamin de 17 ans. Devant la terre entière, en plus. Là, pareil, c'est de l'écume, en fait. C'est de l'écume. Oui. Voilà. Je ne sais pas si peut-être parce qu'il a pas été élu avant. Je ne sais pas pourquoi on a cette succession de.
Peut-être juste une question avant d'en finir. Est-ce que dans le fond, comme il n'a pas de résultats pour l'instant concrets à vendre, est-ce que dans le fond, on ne s'attache pas au style d'Emmanuel Macron qui effectivement fait tiquer?
Alors, il n'y a pas de résultats, je ne suis pas d'accord. Et on peut énumérer tout ce qui a été mis en place depuis 15 mois. Donc, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de résultats. Que ce résultat
l'économie,
n'est
il n'y en a pas vraiment.
Que
ce est trébuchant, en tout cas.
Que ce résultat n'est pas sur plein de sujets et on peut détailler si vous voulez. Mais que ce résultat ne soit pas mis en valeur, oui. Que les résultats se font attendre sur le pouvoir d'achat, oui, sur plusieurs points. Oui. Il y a des choses que les Français ils sont en attente. Alors après, est-ce que moi je suis responsable et le président est responsable de tous ces petits couacs? À un certain moment, quand on est un président, on est en face, on est super médiatisé. Je ne suis pas certaine si on suit quelqu'un 24 sur 24 avec une caméra, s'il va pas faire quelque chose, ou il va pas dire un mot, ou il va pas. Après, c'est un président de la République. Un président de la République n'est pas un monsieur de tout le monde. Donc, je pense qu'il doit faire attention, et donc il doit aussi faire attention aux photos qu'il va prendre.
Voilà. Sonia Crémy, on parlait de Richard Ferrand tout à l'heure, qui a été élu tout récemment à la présidence de l'Assemblée nationale, et hier, c'était l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Et ce sont deux républicains qui ont été élus, respectivement, premier vice-président et deuxième vice-président. Or, traditionnellement,
ça
ce genre de poste revient à la majorité. La droite ironise sur les tensions au sein du groupe La République En Marche. Est-ce que vous savez, vous, ce qui s'est passé?
Je vais vous dire franchement, je ne suis candidate à rien, je n'étais candidate à rien, et je n'ai pas su réellement qu'est-ce qui s'est passé en interne. Donc je ne peux pas commenter quelque chose.
Mais est-ce que pour vous c'est en effet révélateur quand même de tiraillements assez profonds au sein du groupe? Vous avez
pas
la majorité quand même à l'Assemblée nationale, normalement vous devriez pouvoir obtenir...
Non, je ne sais pas sur ce point-là, ce point, pourquoi on a voté pour deux républicains alors qu'on a des candidats en interne chez nous qui peuvent tous incarner, dont beaucoup de femmes qui peuvent tous incarner ce poste de vice-président.
En l'occurrence, il y a une femme.
Voilà, il y a une seule femme.
Pour prétendre qu'aucune femme n'ait au moins la présidence.
Bien sûr, on n'a pas su gérer, on aurait dû mieux gérer. Point.
Qu'est-ce que vous appelez mieux gérer? Plus, à la limite,
plus organisé pour ne pas se retrouver avec deux vice-présidents LR, point.
L'Assemblée nationale a vécu aujourd'hui les adieux de Manuel Valls. On va peut-être écouter un petit mot, un petit extrait du discours. En quelque sorte, un discours d'adieu de l'ancien Premier ministre.
Je veux exprimer ma reconnaissance. D'abord à mon pays, à la France, un pays unique, qui donne la possibilité à quelqu'un qui est né à l'étranger, qui a décidé d'être français à 20 ans, d'avoir un parcours politique, d'être maire, député, ministre et Premier ministre de la République.
Alors, Manuel Valls a été chaleureusement applaudi par une grande partie de l'Assemblée nationale, hué par un certain nombre d'adversaires. Beaucoup se sont levés, vous-même. Comment avez-vous réagi? Vous êtes restée assise?
Je suis arrivée juste après. J'ai attendu qu'il termine. Je suis remontée après.
Si vous y aviez été, vous auriez fait quoi?
Non. Je déteste alors les applaudissements. En marche, là, la façon de se lever tous, d'applaudir, c'est bien. Non, je n'aime pas du tout cela.
Qu'est-ce que vous aimez,
au
sein d'En Marche?
J'aime l'idée que la droite et la gauche puissent travailler ensemble. J'aime l'idée réelle qu'on peut travailler sur 80% des sujets, sur la PMA. Il y a beaucoup, on n'est pas d'accord.
Vous en fichez en politique,
sur la PMA. Les courtisans m'embêtent beaucoup. Les courtisans qui peuvent m'entourer moi ou qui peuvent entourer, et que je les vois entourer un certain nombre d'hommes politiques. On peut être franc et direct sans tomber dans ce côté où je suis un courtisan, donc je me lève, je surjoue, j'applaudis. Donc non, moi je n'applaudis pas. Il a fait ce qu'il a à faire, il a fait pour la France, et c'est très très bien. Maintenant il part, c'est très très bien. Bon courage à lui, moi je n'ai rien à lui dire. En tant que politique, je le respecte. Alors après, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses dans ce qu'il dit, lui, donc beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, c'est pas un homme de gauche, point.
Oui, mais est-ce que vous ça le besoin d'aller prendre l'air ailleurs, en l'occurrence à Barcelone, est-ce que vous trouvez ça courageux? Est-ce que vous dites
alors ils nous le vont aujourd'hui comme l'ouverture ou autre, donc si vous intervenez contre, il va vous dire non, vous êtes une personne fermée, pas assez ouverte, pas assez pro-européenne. Moi, je ne sais pas, il a passé tout notre temps à nous expliquer qu'être français, c'est être français, il faut pas être trop chose. Moi, je suis un peu sceptique. Si je me présente pour la mairie de Tunis, je ne suis pas certaine que lui, il me dira bon courage.
Vous n'y pensez pas?
Non. Non. Je pense à une autre mairie, je vous dirai le temps.
Venu. Dites-nous.
Voilà. Non, je ne meurs pas idiot. Vous m'inviterez, je vous dirai au moment voulu. Voilà.
Dans
la Manche.
Près de la Manche. On ne sait pas. Ouais. On ne sait pas.
Ben, on va rester sur cette interrogation qu'on essaiera de lever dans une autre occasion.
Tous ces politiques qui quittent le gouvernement, voilà. Qui quittent l'Assemblée, qui partent pour des. Ben, on se pose la question à un certain moment, oui.
Voilà, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve, merci Sonia Crémy, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie avec Philippe Gosselin, député de la Manche.
Voilà, comme vous.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 RFI avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité, Philippe Gosselin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Les Républicains de la Manche, vous aussi, comme notre précédente invité.
Oui, ce soir.
Vous êtes
de droite.
Belle
accumulation.
Voilà. Et vice-président de la commission des lois. Alors bien sûr, on va vous poser la même question puisque c'est l'interrogation et puis c'est non pas le suspense mais la tragédie du jour. C'est Gérard Collomb qui a annoncé sa démission au président, qui la refuse, puis il insiste et quelque sorte il tord le bras du président en disant je veux partir et Emmanuel Macron devra trouver une solution. Il en a chargé d'ailleurs le Premier ministre Édouard Philippe. Que vous inspire ce théâtre?
Bah écoutez, on pourrait sourire en disant les portes claquent, comme sur les théâtres de boulevard, c'est drôle, etc. Au théâtre ce soir, sauf qu'honnêtement, ça fait pas rire. Je vous cache pas que si c'était à quelques mois d'une élection présidentielle ou législative, à la veille de 2022, on pourrait sourire, se frotter les mains en se disant voilà, parfait, ça va tomber tout cru. Encore que, on a vu que ça tombait pas toujours tout cru. Mais là, honnêtement, c'est plutôt pathétique. Plutôt pathétique, et je trouve qu'on est dans une ambiance, en réalité, de fin de règne. À 18 mois, de l'élection présidentielle.
Comment vous l'expliquez ça? Parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment-là. Alors peut-être que c'est juste.
Mais il y a un peu de panique. Nos collègues en marche, pour un certain nombre, sont un peu tétanisés. Hier après-midi, s'est produit quelque chose d'un peu inconcevable à la réinstallation du bureau de l'Assemblée nationale.
Oui, on va en parler.
On va peut-être en parler. Oui. Mais nos collègues en marche se sont seulement bien débrouillés à rayer des noms pour régler quelques comptes. Sans doute, j'imagine, entre eux, qu'en réalité, nos candidats Annie Genevard et Marc Le Fur, et je m'en réjouis pour eux, sont des gens de qualité, se sont retrouvés élus premier vice-président et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est du jamais vu depuis 50 ans.
À la faveur d'une bataille interne.
À la faveur d'une bataille interne et de noms rayés, je ne sais pas trop comment.
Oui. Pour vous, on a posé la question il y a quelques instants à Sonia Crémy, on lui a demandé ce qui s'était passé. Elle dit, je n'en sais rien, en gros. Pour vous, il n'y a pas d'autre explication que des règlements de compte internes. Parce que c'était sur un scrutin de liste.
Oui, c'est un scrutin de liste. Donc, il y a des noms à rayer le cas échéant ou pas. Et quand on est dans la majorité, il faut mieux éviter de rayer les noms de tel ou tel candidat, surtout quand ils sont dans votre propre camp. Après, c'est l'affaire de la majorité.
Vous faites d'une pierre deux coups. Vous récupérez la première vice-présidence, la deuxième vice-présidence, oui. Et vous gossez.
Ah, écoutez, je vais pas pleurer sur cette petite difficulté qui a évidemment contrarié la majorité. Bon, tout ça c'est de l'écume du jour d'une certaine façon. Ça va pas changer la face des choses. En revanche, la démission, et je reviens à la démission du ministre de l'Intérieur potentiel dans quelques heures, quelques jours, on sait pas trop, qui est cramé. En réalité, il est totalement cramé, il est décrédibilisé, il ne peut plus assumer ses fonctions et il n'a plus envie de les assumer. C'est quand même assez fâcheux, pour ne pas dire grave. Je ne sais pas quel sera l'atterrissage à Lyon, mais ça, c'est l'affaire des Lyonnais. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a un ministre de l'Intérieur qui n'est plus là, de fait. Oui. Il n'a pas encore démissionné, mais de fait, il n'est plus là, alors que les questions de sécurité sont quand même très présentes. Il y a une attente forte de nos concitoyens. Le terrorisme n'est pas une vue de l'esprit, et donc ça ne peut pas durer.
Oui, enfin, ce n'était pas seul Gérard Collomb qui nous défendait avec son fusil.
C'est évident, et heureusement d'ailleurs, et heureusement. Il y a tout un ensemble, mais vous savez, ça parle beaucoup au ministère de l'Intérieur, et aujourd'hui, les directions générales du ministère de l'Intérieur savent que leur ministre ne sera plus ministre d'ici à quelques temps, et rapidement. Les syndicats de police ont compris que c'était plus la peine d'insister sur certains sujets, c'est évident. D'autres noms circulent. Donc vous voyez bien que ça affaiblit le ministre de l'Intérieur, mais ça, c'est son problème. Mais ça affaiblit le gouvernement. Et moi, je me réjouis pas de voir un gouvernement de la République française, à la veille d'ailleurs de célébrer les 60 ans de la 5e République, le 4 octobre, dans deux jours, je ne me réjouis pas de voir la France finalement affaiblie.
Alors, ce que vous dites, c'est... Pardon, Frédéric, mais est-ce que Gérard Collomb affaiblit le président de la République quand il veut à tout prix s'en aller?
Moi, je crois qu'il affaiblit le président de la République par son annonce de démission il y a quelques semaines. Jamais on annonce qu'on va démissionner, ou alors on le fait dans les heures qui suivent. Enfin, ça, c'est le principe même du pouvoir, et c'est pas ça vieux monde ou nouveau monde, c'est un principe. Quand le roi est nu, il n'y a plus de roi, soyons clairs. Donc, ça affaiblit le président de la République, parce que Gérard Collomb lui-même a affaibli le président de la République. Maintenant, vous noterez aussi qu'il y a d'autres séquences. Je parle même pas de l'affaire Benalla, je parle simplement de la démission là aussi, qui sort du chapeau sur France Inter, de Nicolas Hulot, de la ministre des Sports qui est exfiltrée, mais ça c'est un autre sujet. Deux ministres d'État qui partent à 18 mois simplement et sans avoir de poids lourd en réalité à mettre à la place.
Mais ce sont des
isolements du pouvoir.
Ce sont des contextes différents parce que Nicolas Hulot a expliqué pourquoi il partait, ça n'avance pas assez vite, il est confronté au lobby. En ce qui concerne Gérard Collomb, pour l'instant, on se demande au fond, parce qu'on se souvient, et on en parlait tout à l'heure, de Gérard Collomb, les larmes aux yeux le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron. C'était un proche parmi les proches, l'un des premiers à avoir cru en lui. Qu'est-ce qui, selon vous, a conduit à ce divorce aujourd'hui?
Moi, je pense que, et je n'ai évidemment pas toutes les explications, ça va sans dire, mais je pense que le ministre de l'Intérieur s'est rendu compte de l'isolement, peut-être, du ministère de l'Intérieur, s'est rendu compte que d'être ministre, c'était pas l'alpha et l'oméga, lui qui, et je lui reconnais volontiers cette situation, lui qui est en relation quasiment charnelle avec les Lyonnais, ne retrouve sans doute pas cela au ministère de l'Intérieur. Et puis je pense que ce qui s'est passé ces derniers mois, et sans vouloir revenir à l'affaire Benalla, qui a montré que le ministre de l'Intérieur était quand même le dernier flic de France au courant de ce qui se passait chez lui. Donc je pense que tout ça a créé un peu de contentieux. Après, je ne suis pas dans le secret du pouvoir et je n'ai sans doute que des éléments très partiels.
Alors, on va parler de la droite, parce que c'est pas génial chez vous non plus.
Ah, mais je ne prétends pas que tout soit parfait.
Juste une petite question avant. Est-ce que ce que vous avez décrit de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que des vice-présidents vous sont revenus parce que ils se bouffent le nez au sein de la République en marche. Est-ce que ça éclaire, d'après vous, ce qui se passe au plus haut niveau? C'est-à-dire sur une mauvaise ambiance et sur un sentiment qu'il y a le château qui est dans une toute puissance et les autres qui sont sur la couture du...
Je crois que c'est assez révélateur, effectivement, d'une forme de solitude du pouvoir. Vous avez un président de la République qui a réalisé, tout le monde l'a dit, un formidable hold-up, et il est légitime, je ne conteste pas l'élection du président de la République, c'est pas ça mon propos, mais sans soutien partisan, sans soutien de beaucoup de troupes qui sont enracinées, et aujourd'hui, ce président qui n'a aucune habitude du pouvoir local, qui n'a jamais été député, qui est plutôt techno à l'origine, a tendance à concentrer les pouvoirs. Il n'y a pas de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale et donc le groupe majoritaire est un peu désœuvré. On l'a vu à différentes reprises, un peu livré à lui-même. Il n'y a pas non plus d'énormes poids lourds politiques, nouveaux en tout cas, autour du président de la République. Et c'est bien la difficulté pour remplacer Hulot, c'est bien la difficulté pour remplacer un vieux grognard, parce qu'il l'est d'une certaine façon, tel que Collomb, qui était là, et j'en conviens, dès la première heure.
Philippe Gosselin, vous l'avez dit, on est à deux jours du 60e anniversaire de la 5e République. Précisément, ce que vous décrivez là, cette hyper-concentration du pouvoir dans les mains du président de la République, qui au fond, après, en fait l'usage qu'il veut et qui en concentre plus ou moins selon son bon vouloir, est-ce que ça ne pose pas des questions sur la nécessité de passer à autre chose?
Alors ça, on pourrait le voir ainsi. Moi, je crois que, heureusement, au contraire, heureusement qu'on a des institutions qui sont plutôt ferme dans une période où il y a une telle instabilité. Alors, qui de l'œuf ou de la poule, vous allez me dire, j'entends bien votre question. Mais je crois que si aujourd'hui on a une hyper concentration, elle est le fait d'un homme, le cas échéant, et c'est d'autant plus concentré qu'il n'a pas les réseaux habituels, les partis politiques habituels qui peuvent jouer le rôle de contre-pouvoir. Donc c'est plutôt, non pas un dévoiement des institutions, qui pourrait être tempéré et mieux rééquilibré, notamment au profit du Parlement, je ne dis pas le contraire, mais c'est plutôt un dévoiement d'un homme et d'un système que des institutions elles-mêmes qui, au contraire, assurent la stabilité.
Alors, bientôt, ce sera les élections européennes, pour tout le monde. Voilà, Laurent Wauquiez a confié au Figaro que Viktor Orban a toute sa place au sein du PPE. Il a été élu, disait-il, démocratiquement. Tous nos braves censeurs devraient s'en souvenir. Or, Viktor Orban a été épinglé, comme vous le savez, par un vote au Parlement qui pourrait aboutir sur l'article 7 pour le sortir de l'Europe, pour violation grave des valeurs démocratiques. Ça ne semble pas déranger le patron des Républicains de piétiner les valeurs démocratiques en Europe par Viktor Orban. C'est curieux.
Soyons clairs, il y a débat en interne sur cette question. Ça vous a pas échappé, avec un vote au Parlement qui a été au Parlement européen qui a été disséqué, commenté, etc. Vous savez, on a effectivement un certain nombre de gouvernements qui, aujourd'hui, ont des propos ou des propositions qui ne sont pas tout à fait celles des pères fondateurs dans les années 50 ou 60. Bon. Maintenant, je constate que c'est vrai en Pologne, c'est vrai en Roumanie, c'est vrai en Italie, pour d'autres raisons, c'est vrai en Hongrie, etc. Si on commence à systématiquement claquer la porte à ces responsables politiques qui, en effet, ont été élus, je crains qu'on ne ferme la porte à l'ensemble des gouvernements. Donc je pense pas que ça soit la meilleure façon, je crois qu'on doit manifester une désapprobation, mais vous savez, il y a toujours un effet pervers, c'est qu'en voulant mettre ainsi au banc de l'Europe des responsables politiques hongrois ou d'autres pays, en réalité on risque réellement de renforcer dans leur radicalisation,
si
j'ose dire.
Mais
non, je crois que c'est pas la bonne stratégie.
D'accord, mais est-ce que pour autant, Viktor Orban, on peut le défendre?
Moi, je ne cherche pas à défendre Viktor Orban. Je dis qu'il y a d'autres moyens de faire pression si on veut amener à la raison. Vous savez, je repense à ce qui s'est passé avec l'Italie. Je ne défends pas du tout le gouvernement en place qui est une alliance de la carpe et du lapin, assez contre nature en réalité. Quand j'ai entendu il y a quelques petits mois maintenant après les élections que les marchés pourraient sanctionner, que l'Europe pourrait faire ceci et cela, je crois qu'on rend pas service au peuple et au gouvernement non plus. Donc attention à ce qui paraît évident, rapide. Encore une fois, je n'approuve absolument pas les méthodes de Monsieur Orban, mais je crois que mettre la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, comme par hasard des pays qui nous ont rejoints après la chute du bloc soviétique, ça me paraît un peu douteux, et je pense qu'il y a d'autres méthodes, encore une fois.
Est-ce que le projet européen des Républicains pour les élections européennes, aujourd'hui, vous paraît clair?
Il est encore en cours de finalisation, soyons clairs. Il y a quelques tendances centrifuges, centripètes. L'Europe, en réalité, fait plutôt l'unanimité chez nous, réellement. Je ne vois personne. Non. J'aime tellement l'Europe que je ne la veux pas, etc. Je vois bien le discours, mais non. Aujourd'hui, personne n'a envie de se séparer de l'Europe. En revanche, il y a de vraies questions sur les institutions, sur les politiques qui sont menées. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je serais très prudent avec les thématiques européennes, que l'on dise blanc ou noir. J'ai tellement l'impression aujourd'hui que l'Europe est le parent décrié bouc émissaire, que quoi que l'on fasse, les réponses ne seront pas celles qui sont espérées. Donc chacun, en réalité, c'est vrai pour la majorité comme pour nous, aborde ces élections européennes avec un peu de prudence et aussi un peu d'inquiétude, il faut bien le dire.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Philippe Gosselin, qu'il ne fallait peut-être pas mettre Viktor Orban au banc. Est-ce que ce n'est pas finalement ce que fait la droite républicaine en France, les Républicains, l'UMP, le RPR depuis des années, en refusant de parler avec le Front National aujourd'hui, le Rassemblement National? Or, des langues commencent à se délier chez vous. Il y a eu Thierry Mariani, il y a maintenant un sénateur qui s'appelle Sébastien Meurant. Ce matin même, Julien Aubert, porte-parole des Républicains, disait « débattre avec le Rassemblement National, oui. Confronter les idées, oui. S'allier, non. » Mais est-ce que, oui ou non, il faut faire sauter le joint d'étanchéité et discuter avec le Rassemblement National?
Je vous dis sincèrement, je ne le crois pas. que nous nous posions des questions qui sont abordées par le Front National, évidemment qu'on doit le faire.
Ça, on ne peut pas l'éviter, de toute façon,
on ne peut, et puis non seulement on ne peut pas l'éviter, mais il ne faut surtout pas l'éviter. Oui. Il est normal qu'un parti comme le nôtre se pose des questions sur la sécurité, sur l'immigration, sur la place de la France dans le monde, etc. Donc il n'est pas question de laisser ça à d'autres. Pour autant, il est légitime aussi de capter, le cas échéant, les électeurs du Front National et essayer de les faire revenir au bercail. Mais pour autant, je pense qu'on ne peut pas discuter de parti à parti. Le Front National souhaite en réalité la mort de l'UMP autrefois, des LR aujourd'hui et de cette droite parlementaire. Je vois pas comment on pourrait s'allier avec ceux qui veulent en réalité notre disparition. Qu'il y ait des points de convergence sur tel ou tel sujet parce que ça se trouve ainsi ou parce que l'évolution de la société est ainsi, pourquoi pas? Mais on ne peut pas courir après le Front National. Thierry Mariani, comme quelques autres, figureront peut-être sur la liste du Front National, mais moi je le dis franchement, à ce moment-là, ils cesseront de faire partie des Républicains. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois.
Mais est-ce que, justement, Laurent Wauquiez ne court pas après les thématiques du Front National, qui, on a l'impression qu'il est un peu obsédé par l'immigration?
Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même de vraies questions qui se posent sur l'immigration et la sécurité. Moi, j'étais à Mayotte la semaine dernière. Je peux vous dire que nos amis français mahorais, ils se posent bien des questions sur une immigration qui est galopante. Et c'est pas simplement lié aux prestations qu'ils auraient en plus ou en moins. Ça modifie profondément la société mahoraise qui est en équilibre très instable. La question de la sécurité est une vraie question qu'on ne peut pas laisser aux mains du Front National. Donc qu'un parti de droite et d'autres de gauche pourraient se poser la question d'ailleurs, se posent toutes ces questions. Ça me paraît dans la droite logique des choses, effectivement.
Est-ce qu'il gère bien le sujet, Emmanuel Macron, notamment avec les arrivées des bateaux, l'Aquarius, le dernier en date? C'était par la voix de Bruno Le Maire, il avait annoncé que la France refuserait ce bateau en attendant une solution européenne. Effectivement, trois pays dont la France s'est dispatché le nombre d'hommes et de femmes. Est-ce que c'est la bonne tactique?
Moi, je crois qu'on pourra desserrer l'étau des frontières intérieures et avoir une libre circulation un peu différemment entendue quand on aura effectivement, ce qui est malheureusement pas encore le cas, aux frontières de l'Europe de vrais contrôles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout ça me paraît insuffisant et j'attends du gouvernement qu'il ait une politique très active en la matière. Il y a des paroles, il y a des paroles, je le reconnais volontiers, mais les actes seraient préférables.
Frédéric.
Manuel Valls a fait ses adieux à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous l'avez entendu.
Oui.
On a par la suite entendu un hommage très appuyé du Premier ministre Édouard Philippe. On va l'écouter et puis vous nous direz si vous auriez dit la même chose.
J'ai le souvenir, monsieur le député, d'avoir été votre adversaire politique. J'ai le souvenir de vous avoir accueilli ministre de l'Intérieur dans la belle ville du Havre. Et j'ai le souvenir qu'à l'époque, les engagements que vous aviez pris avaient été tenus. Je vous souhaite le meilleur, monsieur le député.
Alors, c'est un court extrait de l'intervention d'Édouard Philippe, qui a été vraiment très chaleureuse. Vous auriez dit la même chose ?
Ah, écoutez, petit point d'ironie, je trouve que ça ne manque pas de sel de rappeler que l'un et l'autre ont été adversaires alors qu'ils sont aujourd'hui dans la même majorité. Premier point, mais c'est pour faire un brin d'humour. Pour le reste, écoutez, moi j'ai salué, comme tous mes collègues, en l'applaudissant du reste, de façon républicaine, Manuel Valls. Je crois qu'il a réconcilié, et ça c'était précieux, il a réconcilié la gauche ou une partie de la gauche avec les notions de régalien et de sécurité. Et ça valait bien un salut républicain.
Il va peut-être regretter de partir pile au moment où Gérard Collomb s'en va.
Écoutez, il s'ennuyait ferme, ça c'est clair, à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si de l'autre côté des Pyrénées il trouvera mieux, mais en tout cas, je trouve intéressant cette tentative de reconquérir ou de conquérir Barcelone et d'être du coup devenu pratiquement un adhérent d'un parti de centre-droit, monarchiste. Mmh. Allez, si j'étais taquin, je dirais que ça ne manque pas de sel. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a du panache et j'ai apprécié, je le dis en sincérité, les travaux menés par Manuel Valls, parce qu'il avait une certaine autorité, notamment sur la mission Nouvelle-Calédonie. Et donc, je salue son engagement et je lui souhaite bon vent pour Barcelone, la Catalogne et pour l'Espagne.
Donc vous ne sortez pas votre pancarte dégâts, bon débarras, comme l'ont fait les députés
de
la
C'est une forme de gaminerie, mais on est habitué avec la France insoumise à ce genre de manifestation que je trouve très honnêtement déplacée. On peut ne pas apprécier Valls, leur problème et c'est leur droit du reste, mais ces manifestations intempestives en séance me paraissent totalement déplacées.
On n'a pas évoqué Charles Aznavour. Qu'est-ce que représentait Charles Aznavour pour vous?
Bah écoutez, des CD que j'ai dans ma voiture, que je chante avec moi.
Pas depuis hier.
Pas depuis hier, bien avant, mais comme chacun. Enfin, je crois que il fait partie du patrimoine national et on a tous des dizaines de titres. Donc, beaucoup de tristesse, de nostalgie, mais avec une mort que je trouve honnêtement magnifique, en pleine action, mais dans son lit à 94 ans. Écoutez, on est prêt à signer dès maintenant.
C'est pas faux. Merci Philippe Gosselin. Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Mérand d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe.